Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Chacun sait que vous êtes suisse, Mathieu est d'un tempérament contemplatif. Mais je ne sais pas si vous êtes un amoureux de la randonnée en montagne.
Oui, je suis un amoureux de la randonnée, oui.
Et donc, Mathieu, ça vous fait un point commun avec Helmut et Erika Simon, un couple de randonneurs allemands qui étaient en train de crapahuter dans les Alpes un matin de septembre 1991 à la frontière entre l'Autriche et l'Italie. L'air est clair, le couple a déjà atteint la belle altitude de 3200 mètres. Lorsqu'ils décident de couper par un petit col en longeant le glacier. C'est là, à 70 mètres du sentier, que Helmut et Erika perçoivent alors une forme étrange à moitié saisie par la glace. En s'approchant, la macabre découverte se confirme. Helmut et Erika découvrent un cadavre dénudé, à la peau brunâtre, décharné, presque squelettique. Le corps est étendu sur le ventre, le nez dans la terre humide. Helmut et Erika ne s'affolent pas plus que ça, ce sont des randonneurs chevronnés. Ils savent très bien que les glaciers rendent souvent le corps d'alpiniste disparu depuis des années, parfois depuis des décennies. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils viennent de faire l'une des découvertes archéologiques les plus incroyables du XXe siècle. Dans l'immédiat, il faut se dépêcher de redescendre le corps. La fin de l'été arrive et les températures baissent vite en montagne cette saison. Les secours arrivent. On dégage le corps un peu brutalement et 3 jours plus tard, la dépouille arrive en Autriche, à Innsbruck, où le procureur a déjà ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort. Assez vite, les enquêteurs décident de lui donner le nom de Ötzi, parce qu'on l'a retrouvé dans le massif alpin de Lützal. Les médecins légistes ne sont pas au bout de leur surprise. D'abord, le corps montre des traces de blessures, dont une vilaine plaie à la tête. Ensuite, on constate que Ötzi est un drôle de cadavre. C'est un homme barbu de 45 ans qui a plutôt un physique de jockey, 1m60 pour un poids estimé à 45 ou 50 kilos. Il avait les dents du bonheur, une bonne soixantaine de tatouages et il chaussait du 38. Mais surtout, les chercheurs constatent que Ötzi n'est pas né d'hier. Vous connaissez forcément la marque du vieux campeur, Mathieu. Là, c'est le très très vieux campeur. Ötzi est mort il y a 53 siècles, à la toute fin du néolithique. 53 siècles, c'est presque difficile d'imaginer ce que c'est. Hein. Pour vous donner une idée, il s'est passé plus de 700 ans entre la mort de Ötzi et le début de la construction de la pyramide de Khéops.
Ah oui, ça fait vraiment un très vieux campeur.
Évidemment, on se détend un peu du côté des policiers.
Hein. Ça presse pas l'enquête. Quoi.
En revanche, le monde scientifique entre en ébullition parce que Ötzi est tout simplement la plus vieille momie naturelle jamais retrouvée, en tout cas à l'époque, parce que depuis, le record a été battu. Tout le monde se bat pour savoir à qui appartient la momie. À ce petit jeu, c'est l'Italie qui gagne, parce que c'est bien sur son territoire qu'on l'a retrouvée, à 92 mètres près. Une équipe internationale se met en place et on commence à examiner Ötzi sous toutes ses coutures, en mobilisant toutes les technologies possibles et imaginables. Et forcément, on découvre beaucoup de choses sur l'homme des glaces. D'abord, il n'était pas en pleine forme. Il a les jambes musclées, ses articulations montrent une habitude de la montagne, mais Ötzi a connu sa part de gamelle avec plusieurs côtes cassées et mal ressoudées. Il avait aussi de l'arthrite, un kyste sur un doigt de pied qui devait lui faire un mal de chien. Et il avait probablement mal au ventre en permanence parce qu'il ne digérait pas le lait et que son estomac était truffé de vers parasites. En examinant ses ongles, les chercheurs ont aussi découvert que Ötzi avait été confronté à plusieurs épisodes de stress intense dans les semaines précédant sa mort. On sait même ce qu'il a mangé quelques heures avant de mourir, de l'épeautre, du cerf et du bouquetin. Et on sait même qu'il est mort au printemps, peut-être en avril, grâce au pollen retrouvé sur lui. Mais il n'y a pas que le corps du pauvre Ötzi qui permet d'en savoir davantage. La glace aussi conserve tout son équipement, ses vêtements, ses armes, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était chargé comme un baudet. Ötzi portait une cape en tissu et plusieurs couches de vêtements en peau de chèvre, de veau, de bouquetin et de chamois. Il portait des bottes confortables et un beau bonnet bien chaud, doublé avec de la fourrure d'ours. Il était aussi équipé d'un sac à dos, en tout cas une sorte de hotte, dans laquelle il rangeait toute une tripotée de petits ustensiles pour faire du feu, aiguiser ses flèches ou réparer ses vêtements. Il transportait aussi un arc démonté qui aurait été plus grand que lui une fois assemblé, un bel arc en bois d'if et plusieurs flèches qui n'étaient pour la plupart pas prêtes à être tirées. Ötzi avait aussi sur lui un poignard en silex et surtout une très belle hache en bronze. Et ça fait tiquer les chercheurs. Ötzi porte des armes et des vêtements qui ne sont pas ceux d'un simple chasseur-cueilleur. Ses tatouages, cette hache en bronze, la qualité de son équipement, le fait que ses mains sont plutôt lisses et protégées des travaux les plus durs, tout porte à croire qu'il avait un certain statut. Chaman, peut-être, ou chef de clan. Mais on ne sait toujours pas comment il est mort. Les scientifiques ont assez vite compris que Tsi n'est mort ni de faim ni de froid. On sait aussi que ce n'est pas une chute qui a eu sa peau et qu'aucune des petites misères dont il souffrait n'était fatale à court terme. C'est en 2001 que les chercheurs ont commencé à avoir des soupçons. Cette année-là, l'un d'entre eux découvre sur une radio une petite tache dans le dos de Tsi, au-dessus de l'épaule. Intrigué, l'équipe creuse et découvre qu'il s'agit en fait d'une plaie qui fait beaucoup penser à celle que provoquerait une pointe de flèche. Autrement dit, Ötzi se serait fait tirer dans le dos. On découvre aussi une autre blessure, passée inaperçue jusqu'alors. Ötzi avait été blessé à la main 2 jours avant sa mort. Un profond coup de poignard entre le pouce et l'index, une blessure défensive typique dans un combat au couteau. 5 ans plus tard, bingo! Un scanner plus performant permet de préciser l'étendue des dégâts. Non seulement l'hypothèse de la flèche se confirme, mais on découvre qu'elle a touché une artère sous la clavicule gauche. C'est une très vilaine blessure. Les médecins qui la découvrent signalent qu'aujourd'hui, et sans prise en charge immédiate, ce genre de blessure provoque la mort 3 fois sur 5, en général assez vite, à cause d'une hémorragie interne. Alors forcément, en pleine montagne, et il y a de ça 53 siècles, le pauvre Ötzi n'avait aucune chance d'échapper à son meurtrier, ou plus probablement à ses meurtriers. Pourquoi plusieurs ? Pour 2 raisons. D'abord, les chercheurs ont trouvé du sang sur ses armes, du sang de 4 personnes différentes, ce qui laisse penser que Tsi ne s'est pas laissé faire sans combattre. Mais surtout, la reconstitution a montré que la flèche qui a tué notre randonneur a été tirée à 30 ou 40 mètres derrière lui, en contrebas, au moment où il tournait le dos à son assassin, peut-être au moment où il essayait de repérer ses autres poursuivants. L'hypothèse la plus probable, c'est celle-ci. Ötzi a été abattu par un sniper de l'âge de bronze à qui on peut reconnaître au moins une chose. Il a réussi un tir spectaculaire. Rien n'est jamais définitif en matière de recherche scientifique, mais a priori, on a donc trouvé comment Ötzi était mort. Ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on ne pourra sans doute jamais savoir avec certitude, c'est pourquoi on l'a tué, ni même qui l'a tué.
Europe 1, historiquement vôtre.